Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Bonjour et re-bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui, avec vous, s'envoie les œuvres d'Ernest Cline. Ernest Cline, quand même, un auteur qui a de l'avenir, on l'espère, parce qu'on a envie de continuer à faire ce podcast avec vous. C'est une saison 2, puisque Ernest, après le fantastique Ready Player 2, a décidé qu'il en avait encore sous la pédale, et il s'est lancé dans l'écriture, non pas de Ready Player 3, lui, on l'appelle de nos voeux, hein. On sait qu'un jour ça arrivera, ou peut-être un préquel, peut-être Ready Player Zero. Mais non, il a pris une petite pause, il est sorti de l'Oasis, peut-être pour aller niquer, peut-être que c'est mardi, et il a décidé d'écrire un livre pour enfants qui s'appelle Bridge to Bat City. Et pour découvrir ce pont vers la cité des chauves-souris, alors attention, c'est quand même un titre très prometteur, j'ai avec moi... Bah, non pas deux chasseux, alors je ne sais pas comment on va les appeler cette fois-ci, vous êtes peut-être deux amateurs de chauves-souris. Tout d'abord Camille, bonjour Camille.
Salut, ouais, complètement amatrice de chauves-souris de mon côté, donc je suis à la maison.
Très bien, c'est parfait. Et Brice, toi les chauves-souris?
Ah, je suis déjà en train de regretter toutes les décisions par rapport à ce podcast. Qu'est-ce que je fais là? Bonjour.
Alors, je tiens à préciser aux auditeurs que je ne les ai pas obligés à venir, ils ne sont pas sous la menace, ils ont accepté fort gentiment de me rejoindre une fois de plus pour cette saison 2. Et oui, Bridge to Bat City, donc très prometteur, puisqu'il s'agit d'un livre pour enfants. Il faut quand même savoir que quand je suis allé chercher le livre à ma librairie du coin, parce qu'on a essayé, là aussi, faut que j'explique, on a essayé autant que possible d'éviter d'enrichir Jeff Bezos un peu plus. Donc je suis allé chercher le livre en librairie, et alors que je regardais au niveau de Ready Player One, Ready Player Two Armada, je ne le trouvais pas. Et puis j'ai eu l'idée d'aller chercher au niveau rayon enfant, et c'est là qu'était rangé le livre, puisque les libraires ont bien fait leur travail. Bridge to Bat City est bien un livre pour enfants, ce qui explique aussi la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à trouver le livre en VO lors de mon voyage en France. Et donc nous allons tenter une petite expérience inédite, puisque Camille, elle, va lire le livre en VF, puisque le livre est sorti depuis un petit moment déjà. Camille, est-ce que tu as eu le temps de le feuilleter encore?
Ouais, mais j'étais en train de dire, je vais un peu jouer niveau facile, parce que non seulement je le lis en français, c'est écrit extrêmement gros, il y a des images, enfin ça va vraiment être une partie de plaisir du début à la fin.
Alors, sache que c'est aussi écrit gros dans la VO et il y a aussi des images, donc ce n'est pas une exclue de la version française, je pense qu'elle est assez fidèle de ce point de vue-là, au niveau éditorial, mais en effet, tu vas le lire en VF. Alors, on essaie quelque chose de neuf, hein, la dernière fois, pour la saison 1, on avait tous lu le livre en anglais, et c'est pas parce que t'avais pas envie de le lire en anglais, c'est vraiment parce qu'il était introuvable en anglais à Paris, à moins de le commander. Je suis allé dans deux librairies spécialisées dans les livres anglophones, il n'y était pas. Je suis allé à la FNAC, à plusieurs FNAC qui ont des rayons anglophones, il n'y avait pas le livre. Donc, bah, malheureusement, hein, j'ai fini par le prendre en français parce que on a pas trop eu le choix si on voulait pas enrichir Jeff. Toi, Brice, tu l'as pris en dématérialisé, ce qui était le moyen le plus simple, je dirais, hein, de le trouver en anglais en France.
C'était un tout autre choix. Je suis aussi passé par. J'ai dû réfléchir à pas mal de trucs parce qu'à la base, je comptais évidemment pirater ce bouquin avant de me rendre compte que ça allait demander trop de recherches et trop de démarches parce qu'évidemment, il ne se trouve vraiment pas facilement. Et donc, j'ai fini par le prendre en démat sur ma liseuse. Et ce qui m'emmerde encore plus parce que du coup, maintenant sur mon interface, mon algorithme de recommandation et tout ça dit. Alors comme ça, t'aimes bien Ernest Cline?
la
et
double
ça
peine.
Fait un peu chier, quoi, ouais.
Ah, je te cache pas que moi, quand je suis allé dans les librairies et que je ne le trouvais pas, j'étais pas super fier de le demander au vendeur quand même. J'étais genre, non, mais c'est pour... Vous inquiétez pas, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Je faisais pas trop le malin.
Je t'imagine taper une petite colère au milieu des librairies de frustration parce que t'as pas ton Ernest Cline.
De taper des pieds. Ce qui est important de préciser, c'est que comme pour notre saison 1, le livre Bridge to Bad City a été couvert par le podcast 372 Pages Will Never Get Back, mais je n'ai pas écouté les épisodes relatifs à Bridge to Bad City parce que je ne veux pas être influencé par leur avis. Je veux donc découvrir le livre avec des yeux neufs. J'écouterai probablement le podcast plus tard quand on aura terminé pour voir ce que eux en ont pensé. Mais donc voilà, je veux leur rendre un petit hommage parce que après tout, on a complètement pompé leur formule. Hein. Après, je sais pas si c'est eux qui ont inventé le book club de hate reading en podcast, mais en tout cas, je tenais voilà à les saluer. Donc ni toi Camille ni toi Brice n'avez lu le livre hein. Pour l'instant. On est tous vierges de toute expérience kleinesque sur ce livre.
Yes.
Ouais, rien du tout.
Donc ça va être une nouvelle découverte. Alors sachez que le livre est sorti en avril aux USA et la raison pour laquelle on l'a loupé, c'est que je pense qu'il a fait un bide. Je pense vraiment qu'il a pas marché. Ça explique pourquoi on a autant galéré à le trouver. Ça explique pourquoi Brice a galéré à le trouver en pirate, parce que généralement quand un truc fonctionne, il est très très facile à trouver. Mais qu'en ont pensé les premiers lecteurs de ce livre ? Eh bien, je suis donc allé voir sur Goodreads et sachez que sur Goodreads, Bridge to Bad City a 3,37. Il faut quand même savoir que sur Goodreads, ses précédents bouquins étaient quand même largement mieux notés. Il y a quand même une communauté de fans d'Ernest Cline qui avait noté ses bouquins. Sur Goodreads, Ready Player One est à 4,23. Armada à 3,56. Ready Player Two à 3,43. Alors il y a quand même un gros drop entre Ready Player One et Ready Player Two. 4,23, c'est vraiment super, super élevé. Avec 1 236 000 notes. Ready Player 2 n'a été noté que par 171 000 personnes, donc autant dire que son 3,43 il est basé sur 10 fois moins de lecteurs, mais Bridge to Bad City, il y a 738 notes, donc bide, je pense qu'on peut dire bide, franchement, à ce niveau-là, le livre ne fonctionne pas.
Après, est-ce que tu penses pas que c'est le sa petite transformation vers la littérature pour enfants, si on peut appeler ça de la littérature, qui du coup l'éloigne de son public cible?
Ah, probablement. Et je pense aussi que son public cible, qui a acheté le livre en pensant que c'était pour eux, n'a pas aimé. C'est d'ailleurs ce que je vois quand je regarde les avis détaillés. Je vois par exemple quelqu'un qui dit qu'il a adoré Ready Player One, qu'il a beaucoup aimé Ready Player Two et qu'il a bien apprécié Armada. Et il a dit « Imaginez ma surprise quand j'ai découvert à quel point ce livre est mauvais. » Donc, bon, bah, c'est prometteur, hein. Quelqu'un qui a beaucoup aimé Ready Player Two trouve Bridge to Bad City mauvais. Peut-être que nous, on trouvera ça bien. Je sais pas, Brice, t'en penses quoi ?
Ouais, mes craintes, c'est juste que c'est un bouquin pour enfants, et pour moi, ça correspond tout à fait à ce que faisait Ernest Cline avant.
Ouais, des livres pour grands gamins, quoi.
Voilà, et peut-être que là, il a trouvé sa niche, et peut-être que ça va être incroyable. Et les notes que t'as trouvées justifient rien du tout, parce qu'effectivement, bah, si son public n'a pas aimé, il y a des chances pour que nous... ça va peut-être être vraiment toutes les... Je sais pas à combien de temps... Enfin, à quelle fréquence on va faire le podcast, mais peut-être qu'on va être content, on va se dire « Oh putain, dans 2 semaines, là, on va se revoir, on va pouvoir parler de je sais pas trop quoi, la transformation de machin en Batman, ou je sais pas, je sais même pas ce qu'il y a, je sais même pas si ça va parler de Batman, en fait. » Mais on va peut-être vivre un moment incroyable, hein.
Ah, je sais pas si le livre est blindé de références pop culture, parce que pour le coup, il perdrait vraiment les enfants, mais peut-être que c'est blindé de références pop culture pour enfants. Et alors là, on serait complètement perdu, parce que moi, je les aurais pas. Hein, les
yes,
références.
La patte patrouille.
Fait oubloui. Alors, je vois un autre avis très court qui dit « C'est l'équivalent littéraire du même « How do you do, fellow kids ?»
Trop bien.
Mais au moins, les chauves-souris sont mignonnes. Alors voilà, donc je sais pas comment les chauves-souris peuvent être mignonnes à l'écrit, mais je suis curieux de le découvrir. Donc,
bah, il y a des illustrations.
Donc écoute, c'est très très prometteur.
Mais moi, je trouve que pour le coup, c'est extrêmement inhérent à l'écriture de Cline de faire référence à ce même. Je trouve que c'est ce même incarné, quoi. How do you fellow kids? C'est vraiment ce que j'avais ressenti tout au long de Ready Player 2 déjà, des références à n'en plus pouvoir.
Est-ce que ce serait pas How do you do fellow Gen X, en fait, Ready Player 1 et Ready Player 2? Parce que ça vise quand même plutôt les gens qui ont l'âge de Cline, qui ont les mêmes références que lui, je dirais, plutôt que les plus jeunes audiences. Encore qu'il a réussi à toucher un public plus jeune hein, avec Ready Player One. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais il a quand même réussi avec ses références incessantes aux années 80. Parce qu'il y a, on le rappelle, il y a quasiment aucune référence dans Ready Player One, Ready Player Two qui dépasse 1990. C'est que des trucs de son enfance à lui, en fait.
Mais c'est vrai, t'as raison.
Autant moi, ça pouvait me parler, autant toi, par exemple, Camille, qui est plus jeune, les références te parlaient pas du tout, donc...
Pas plus que ça, mais c'est plus que j'avais le sentiment de parler à un vieil oncle en boucle sur le même sujet, quoi.
Ouais, bah, ou alors le vieux papy qui te raconte la guerre d'Algérie, quoi, tu vois, c'est genre, bah, écoute, je comprends que c'était important pour toi, papy, mais moi, ça me dit rien, quoi. Donc voilà, écoute, c'est assez prometteur. Alors, Parlons un peu du livre en lui-même, puisque, on le rappelle, on ne l'a pas lu, donc pour l'instant, on peut parler par exemple de la couverture. La couverture avec cette illustration d'une personne, je dirais... Alors, ça doit être une fille, hein, je dirais, de dos, alors une personne avec des cheveux longs, avec tout un tas de chauves-souris, et qui est sur un pont. Donc on va dire que c'est très très imagé comme couverture. Je pense que tu aurais demandé à une IA de te dessiner un Bridge to Bad City, elle aurait fait ça. Hein, je pense que je ne suis pas en train d'accuser l'éditeur d'avoir utilisé une IA pour cette illustration, mais globalement, c'est vraiment littéralement le titre. Quoi.
Et ben moi, je le fais, je l'accuse. non, quand j'ai vu la couverture pour la première fois, effectivement, ça a fait partie de mes interrogations. Je me suis dit, oh, il y a un truc là.
Après, moi, j'ai très envie d'être l'avocate du diable, parce que c'est un peu mon milieu. Hein. Je rappelle que je suis designer de profession. J'ai sous les yeux que c'est un dessin de couverture de Karina Granda, et je suis en train de me poser la question. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu de la littérature pour enfants, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement premier degré et plutôt frontal quand on s'adresse à des enfants? Je veux pas dire dans l'éducation, enfin moi c'est comme ça que je le ferais, mais je conseille à personne d'autre d'être frontal et un peu menaçant, j'ai le sentiment qu'il faut pas forcément prendre de pincettes et qu'il faut justement être très évocateur, dès le premier coup d'œil.
C'est vrai que tu as raison que les enfants dans jeune âge, les métaphores ça leur passera un peu au-dessus. Alors moi j'ai effectivement Karina Granda pour le design de la couverture, mais j'ai une ligne au-dessus. Jacket Art by Ramona Kolitsky, donc ce serait potentiellement elle qui aurait fait le dessin.
Ah oui, tu as complètement raison.
Et Karina Granda, elle a fait le reste en fait, tout autour, donc tout ce qui est design. Alors Ramona Kolitsky, je ne connais pas, mais si ça se trouve, c'est une artiste qui utilise l'IA, on ne sait pas. On va pas la trash talk immédiatement sans la connaître, mais bon. Tu as raison sur le côté faire un truc assez frontal pour les enfants, c'est quand même préférable. Bon, en tout cas, c'est pas moche, hein. Enfin, moi, je trouve ça assez... la couverture est plutôt jolie, surtout par rapport au truc un peu pourri qu'il avait fait pour Ready Player One, Ready Player Two. Et que lit-on, donc? Donc, on lit un quatrième de couverture. Quelques secondes plus tard, des milliers et des milliers de chauves-souris commencèrent à sortir de l'entrée de la grotte, battant des ailes et s'élevant dans la nuit, dans le ciel de la nuit, dans une vague géante et ondulante... d'animaux couinants tous adossés à un soleil couchant orange et violet, donc voilà. Et ben écoute, je comprends pas ce que c'est censé me donner envie de lire, mais c'est pas grave. Et ça nous dit
attends, mais moi j'ai pas du tout ça en français, hein.
Ah bah moi je t'ai traduit à l'arrache, hein. J'ai pas du tout préparé cette traduction, mais c'est ce que j'ai, moi. Alors vas-y, lis-nous ce que tu as en quatrième du coup.
J'ai quelque chose de, encore une fois, beaucoup plus frontal et sans aucune figure de style, quoi.
Ouais.
Quand Opal emménage dans la ferme de son oncle au milieu de nulle part, elle n'imagine pas qu'il s'agit du début de la plus grande désaventure. Ses nouvelles voisines sont des chauves-souris fans de musique avec lesquelles elle se lie d'amitié. Mais lorsque leur maison se retrouve menacée de démolition, Opal doit déménager à Austin et elle demande aux chauves-souris de les suivre. L'accueil des citadins n'est pas très chaleureux. La jeune fille parviendra-t-elle à les convaincre que tous peuvent cohabiter en paix ?
Ah, donc elle déménage à Austin, qui est donc la ville de Ernest Cline, rappelons-le. Hein. Donc ok, c'est super prometteur.
Il y a toujours ce truc de la musique, là, tu sais, le truc de fan de musique, on en reparlait avec Brice récemment, on s'est remémoré avec beaucoup d'émotion et de tendresse tout le moment Prince de Ready Player Two. J'espère qu'on va pas y retourner, parce que c'était pas le meilleur ride de ma vie.
mais oui, c'est intéressant de voir que la VF a décidé d'être vraiment, de te filer un vrai résumé, parce que en VO, on n'a pas du tout ça, en fait. En VO, on a vraiment juste un petit extrait, qui ne dit pas du tout de quoi parle le bouquin. Et puis, on a, l'auteur du best-seller numéro 1 du New York Times, Ernest Cline, revient avec un conte très imaginatif, mais mostly true. Alors, je sais pas comment traduire ça. Majoritairement vrai,
parce que encore une fois j'ai absolument pas, enfin si j'ai la même chose mais en beaucoup plus évocateur.
Vas-y.
Ernest Cline est l'auteur du best-seller Ready Player One, adapté au cinéma par Steven Spielberg. Originaire d'Austin, il a tenu à rendre hommage à sa ville et à la colonie de plus d'un million de chauves-souris qui a élu domicile.
D'accord,
ok,
et ben voilà. Et donc moi ça termine avec l'amitié inattendue entre une jeune fille et une colonie, ouais, je vais pas dire une colonie, un groupe de chauves-souris amoureuses de musique, donc ça ressemble un peu à ce que toi tu avais sur le précédent truc. Bref, Eh ben écoutez, les chauves-souris qui kiffent la musique, ça vous parle ? Un peu plus que les jeux vidéo, on va le dire.
Non.
Pas tant.
Ah ouais. Brice, fan de Batman
ouais,
peut-être ?
Non, non. Même pas, je le déteste. Non, j'ai très peur. J'ai très peur d'être largué. Comme j'étais un peu largué par toutes les refs aux années 80 et tout ça, je pense qu'il va y avoir de la ref musicale à laquelle je vais absolument rien comprendre. Ça va peut-être même être un peu chiant. Et ce serait très drôle parce que si j'y comprends rien, j'imagine que les gamins n'y comprendront rien non plus.
Moi, j'ai hâte de voir s'il y a beaucoup de références à Tommy Totten, rappelons-nous.
J'ai oublié.
Ah, je vous ai perdu, vous vous rappelez même plus. Tommy Totten, c'est...
Bah non.
Tommy Totten, c'est ceux qui ont fait la chanson 5678309, Jenny, dont il parle dans, je crois, le premier chapitre de Ready Player 2. Et en fait, c'est 8675309. Donc tu vois, je m'étais planté. C'est 8675309, Jenny. Voilà. Une chanson de 1981.
Et bah,
mm-hmm. Que moi, je ne connaissais pas du tout, mais qui était évidente pour Ernest. Bref, on va
mais
pas...
après, moi, je me dis, si on est vraiment sur quelque chose de musical, ça peut être une idée de se construire une petite playlist au fur et à mesure, tu vois. Comme ça, on
oui,
a les rêves.
Avec des needle drops.
Ouais, par exemple. Avec ce que tu veux.
Pour rendre justice à Ramona Kaolitsky, c'est une illustratrice allemande et qui a fait vraiment des chouettes dessins. Je suis sur son site web et je suis à peu près persuadé qu'elle n'utilise pas l'IA, voilà. C'est okay. Une belle illustratrice de livres pour enfants. Et ben là, elle a pas de chance, elle est tombée sur Ernest Cline, quoi. Mais sinon, non, vraiment, basée à Potsdam, en Allemagne. Et ouais, non, ses dessins sont vraiment super chouettes. Donc voilà.
Ok.
Donc il y a au moins ça qui est bien dans le bouquin, la couve. c'est déjà pas mal.
Mais moi, je suis curieuse de savoir si c'est elle qui a fait aussi les illustrations qui sont à l'intérieur, puisqu'elles ont l'air tout à fait appropriées et de bonne facture pour un bouquin pour enfants.
Ouais, en noir et blanc, c'est dommage. Je regarde. Alors, dans les remerciements à la toute fin, eh bien, je vois que donc Ramona Kaolitsky a fait la couverture, mais que les illustrations intérieures sont de Mischka Westell. Voilà. Donc tu vois, au moins, il s'est entouré de personnes un peu talentueuses. Et alors, sachez que vous vous souvenez que pour Ready Player 2, c'était... qui lisait l'audiobook ? C'était un type qui l'avait name-drop en plus dans son bouquin.
Comment tu te souviens de tout ça ?
Franchement, j'en ai aucune idée, je suis largué.
Mais parce que le mec... C'était Will Wheaton. Parce que Will Wheaton, c'est un type qui est connu de la communauté geek américaine parce qu'il était dans Star Trek et que... Il est dans Big Bang Theory, voyons.
Voilà.
Et puis, pour l'audiobook de Bridge to Bad City, sachez que c'est Felicia Day qui fait la lecture. Donc voilà, il arrive encore à s'entourer de gens qui sont respectés dans la communauté pour ces conneries, quoi. C'est quand même assez triste.
Ok. Hein.
Le livre en lui-même fait à peu près 300 pages. Donc déjà c'est plus court que les précédents bouquins et surtout comme vous l'avez dit c'est écrit très gros, il n'y a pas beaucoup de lignes par page, il y a 21 chapitres et je pense que pour une première mise en bouche pour le prochain épisode qui sera le premier vrai épisode où on va commenter le livre, eh ben on va se faire les 5 premiers chapitres comme ça.
Oh, la punition directe quoi.
Ça fait un peu moins de 60 pages. Franchement, ça semble beaucoup, mais c'est écrit tellement gros que je pense que ça va se lire très très vite.
Alors moi, ça fait 73. Du coup, je pense que c'est écrit encore plus gros.
C'est fou. Toi, ton livre fait combien de pages, Camille ?
Alors moi, en tout, je suis à 334 pages.
Ah la vache ! Ah ouais, c'est intéressant. Mais c'est avant les remerciements et la postface
ouais,
ou
ouais, juste avant la superbe bio de lui sur sa bagnole.
D'accord. Parce que moi, ça se termine sur une illustration finale avec des gens sur un pont qui regardent des chauves-souris. Ça fait 304 pages à ce moment-là.
Ah, je suis hyper jalouse. Attends, mais t'as lu la... Attends, non, non. Ah non, il y a une postface. Ok. Toutes mes excuses. 323.
Ouais, voilà. J'allais dire si la postface faisait 30 pages en français. Non. Je sais pas ce que le traducteur est allé chercher. Donc, écoute. Donc, du coup, on peut pas se fier au numéro des pages. Ou alors, il faut que toi, tu dises si les gens veulent suivre en VF à quelle page on s'arrête. Mais sachez qu'en VO, donc, on lit jusqu'au chapitre 5 inclus. Donc, ça va jusqu'à la page 59 incluse. Voilà, en VO.
Et en VF, on sera jusqu'à la page 72.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on a nos objectifs, on a nos devoirs à faire, on a 15 jours. Et d'ici là, bah, on va découvrir un peu cette histoire de chauve-souris. Hein. Je suis intrigué.
Moi, j'ai un peu l'impression de me faire une nuit nanarlande.
Une nuit nanarlande qui va durer... qui va durer une dizaine de semaines au final.
Ah, il y a de ça, ouais.
J'arrive pas à dire si c'est un cauchemar ou un rêve en train de devenir réalité, mais écoute, on va le prendre comme ça vient.
Ça dépend à quel film t'en es dans La Nuit Néerlande, en fait. Si t'es au troisième film, tu vas dormir pendant tout le podcast et ça sera pas super intéressant.
On va bien coller sur les fauteuils du Grand Rex, là. Heureusement, je suis chez moi, donc c'est déjà un avantage.
Très bien. Eh bien, je tenais à vous remercier une fois de plus pour être venu m'accompagner pour cette saison 2. J'espère quand même qu'on va bien rigoler.
Moi aussi, merci à toi pour l'invitation.
Oui, il y a moyen, je pense, ouais.
Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Même antenne, même fréquence, comme ils disent. Je sais plus comment ils disent les jeunes sur les radios. Est-ce que les jeunes écoutent encore les radios? Je ne pense pas.
Cliquez sur la cloche, je sais pas.
J'en ai aucune idée, mais je veux qu'on arrête de parler comme ça.
On va dire même chaîne, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Je sais même pas, ça ne fonctionne pas avec les podcasts, mais réabonnez-vous au podcast si vous vous étiez désabonné de La Moto de qui déjà, même si on vous avait promis qu'on reviendrait. On vous en veut pas. Allez, réabonnez-vous et tout est pardonné. Et puis à dans 15 jours.
À très vite.
À très vite.
En production, RPLU.